L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est un peu plus de 18h ce 23 mai 1992 lorsque les programmes de la RAI, la télévision publique italienne, basculent en édition spéciale. Confortablement installé devant son poste, Letizia Battaglia n'en revient pas. Cette photojournaliste de 57 ans, à la chevelure d'un roux fauve flamboyant, se redresse aussitôt et se saisit de la télécommande pour augmenter le volume du téléviseur. Le présentateur annonce qu'une explosion vient de se produire sur l'autoroute A29 vers Capaci, une petite commune dans la province de Palerme en Sicile. Quelques minutes plus tard, de nouvelles informations s'ajoutent à la nouvelle. L'explosion était en fait une attaque prenant pour cible le juge Falcone. Pour Letizia, comme pour le reste de l'Italie, il ne fait nul doute que les commanditaires de cet attentat appartiennent à la mafia Cosa Nostra. Ce que Letizia ne sait pas encore, c'est que ce crime s'apprête à changer la face de l'Italie moderne. Il est 18h, c'est l'heure H de mon histoire. Ce samedi 23 mai 1992, comme souvent les week-ends, Letizia Battaglia en profite pour se rendre chez sa mère, qui souffre alors d'une grave maladie. Le déjeuner familial s'était prolongé en une longue après-midi tranquille, à l'image des journées qui s'étirent à l'approche de l'été. Les fenêtres de l'appartement sont grandes ouvertes. Une légère brise fait onduler les voiles des rideaux qui atténuent les rayons du soleil encore puissant. Les voix des enfants jouant en bas de l'immeuble résonnent dans les ruelles et se mêlent au son diffus du poste de télévision. C'est dans ce contexte de langueur des beaux jours de printemps que Letizia apprend la nouvelle de l'attentat de Capaci. Dès que l'identité de la victime principale est dévoilée, elle se lève et court dans la cuisine pour attraper le téléphone. La cible de l'attaque n'est autre que son ami, le juge antimafia Giovanni Falcone, l'ennemi numéro un de la Cosa Nostra, la puissante mafia sicilienne. Elle décroche le combiné et compose un numéro. Ses mains tremblent. Au bout du fil, un ancien amant et collègue. Elle lui demande de se rendre au plus vite sur les lieux du crime, à la jonction de Capaci sur la 29. Bien conscient de la gravité de la situation, celui-ci accepte immédiatement. Elle raccroche puis compose un nouveau numéro, celui des taxis siciliens. Mais la destination ne sera pas la même. Elle est incapable d'aller à Capaci. Pourtant, elle a passé sa vie à sauter dans une voiture pour aller photographier toutes les scènes de crime de la mafia. Mais cette fois-ci, elle n'en a pas le courage. Lorsque le chauffeur lui demande où elle souhaite se rendre, elle répond simplement à l'hôpital. Les dernières nouvelles des médias à propos du juge Falcone lui donnent de l'espoir. Il n'est pas mort, il est blessé, du moins pour l'instant. Le temps presse. Plus tard dans l'après-midi, il succombe à ses blessures, tout comme trois de ses gardes du corps et sa femme qui l'accompagnaient. C'est lors du journal télévisé du soir que la nouvelle est confirmée. Le symbole de la lutte antimafia, le juge Giovanni Falcone, est mort à 53 ans dans un terrible attentat. Plus tôt ce jour-là, à 17h58 plus précisément, plusieurs barils contenant des centaines et des centaines de kilos d'explosifs ont fait sauter tout un tronçon de l'autoroute reliant l'aéroport de Palerme au centre de la capitale sicilienne. Ces explosifs, placés sous le bitume, ont été déclenchés à l'approche de la Fiat Chroma blanche blindée du juge. L'explosion a laissé un immense cratère, profond de plusieurs mètres. En plus d'avoir tué le juge Falcone, sa femme et ses trois agents d'escorte, cet effroyable attentat a fait 23 blessés. Des victimes collatérales de l'assassinat qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Letizia repense au nombre de fois où elle a dit à Falcone « Ils vont te tuer !» Une phrase directe, qu'elle lui répétait souvent, comme un avertissement pour lui dire de faire attention. Lucide sur sa propre situation et sachant que sa tête était mise à prix par tout un tas de gangsters, le juge lui répondait sereinement « Oh, t'en fais pas, si je meurs, quelqu'un d'autre prendra la relève. » De toute façon, il avait déjà fait le choix de sacrifier sa vie pour la consacrer à la lutte anti-mafia et plus particulièrement la Cosa Nostra, cette organisation criminelle sicilienne qui faisait régner la terreur sur l'île et au-delà. Il considérait que son compte avec la Cosa Nostra ne serait soldé que par sa propre mort. Et cette fois on y était. La mafia avait eu la peau du magistrat le plus protégé, le plus surveillé d'Italie. Une fois arrivé à l'hôpital, devant le corps inanimé de son ami qu'elle admire tant, Letizia ne peut se résigner à sortir son appareil photo. Oh, pourtant, Letizia en a vu d'autres. À bientôt 60 ans, ça faisait déjà plus de 25 ans qu'elle photographiait les crimes de la mafia. Elle en avait même fait son métier. Il faut dire que la Cosa Nostra lui avait donné beaucoup de travail. Depuis des années déjà, cette mafia sicilienne fait la loi sur l'île. Son nom veut dire « ce qui est à nous » ou « notre chose » pour signifier son exclusivité. En effet, il a fallu attendre les années 80 pour que cette organisation criminelle vieille de plus d'un siècle se fasse connaître du grand public. Bien sûr, la Cosa Nostra a toujours agi en totale impunité, mais toujours avec discrétion, sans revendiquer et sans signer ses crimes. Letizia, les mafieux, elle les a toujours connus sans vraiment les connaître. Elle est née dans cette Sicile des années 30, incroyablement violente et terriblement pauvre. La plus vaste île de la Méditerranée est un territoire particulièrement complexe qui en fait un terreau fertile à l'éclosion du grand banditisme. La Sicile, anciennement appelée Trinacria, l'île aux trois pointes par les Grecs, n'est devenue italienne qu'assez tardivement, au moment de l'unification du pays en 1861. Mais l'État italien a du mal à s'imposer sur l'île qui est encore très imprégnée de féodalité. Autant dire que le désordre règne et que les malfrats profitent de ce chaos. Si la mafia a commencé son organisation en gérant d'une main de maître la vente et l'exportation de ses précieux citrons de Sicile, elle s'est peu à peu introduite dans tous les marchés. La viande, les poissons, les concessions funéraires, les légumes, les fruits. Pour la mafia, tous monnaie, même sa place au cimetière. De toute façon, c'est bien simple. Dès qu'il est question d'argent, la mafia est impliquée. Son ingérence en fait l'interlocutrice principale des Siciliens et des Siciliennes en lieu et place des représentants de l'État. En fait, on ne peut pas ne pas passer par la mafia, si bien qu'on lui est forcément un jour redevable. Et gare à celles et ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Ils prennent le risque de se faire tuer. Dans les années 80, il y avait entre 3 et 7 meurtres par jour. Des règlements de compte, mais aussi des assassinats sanglants. Les corps sont lacérés, les yeux des victimes arrachés, puis déposés dans leurs propres mains. Ces meurtres ont des allures d'avertissement, d'exemple de ce qu'il pourrait arriver si on ne respecte pas les règles du jeu. Ils disent en filigrane, on ne plaisante pas avec la mafia. Œil pour œil, dent pour dent. Le jeu, c'est bien sûr la mafia qui en dicte les règles. La plus célèbre d'entre elles, la loi du silence, ou omerta, si vous voulez, en sicilien. C'est une des règles d'honneur de la mafia qui lui permet d'exister sans jamais être inquiété. Quand quelqu'un disparaît, personne ne le signale à la police. Dans ces décennies sanglantes en Sicile, personne ne comptait mort. Issue d'une famille bourgeoise, Letizia Battaglia ne côtoie pas les mafieux, même si, comme tout le monde, elle en croise au quotidien dans la ville de Palerme qu'elle habite. Oh, pas nécessairement Des grands malfrats, mais plutôt les bras armés des capots, ou en d'autres termes, des brutes épaisses qui font le sale boulot des chefs. Même si dans sa jeunesse, Letizia n'est pas directement confrontée à la violence mafieuse, elle connaît elle aussi d'autres formes de sévices. Letizia est une femme et, dans cette Sicile du début du XXe siècle, une femme est soumise à l'autorité d'un homme. Le père de Letizia l'empêche de sortir dans la rue et même sur le balcon de sa chambre. Elle est enfermée chez elle, puis envoyée chez les nonnes, dans une école catholique huppée. À 16 ans, Letizia rencontre un homme riche de 8 ans son aîné qui lui fait croire à un conte de fées. Elle y voit clairement l'opportunité de ne plus être sous l'emprise de son père et décide de s'enfuir avec lui. Mais son mari n'est pas vraiment plus progressiste que son père. Elle veut continuer l'école. Lui veut qu'elle s'occupe des enfants. Elle veut devenir écrivain. Il veut qu'elle reste à la maison. Et alors qu'elle désire de plus en plus s'enfuir, son mari tente le tout pour la retenir et il devient violent. La chape de plomb se referme peu à peu sur elle. À ce stade de notre histoire, vous vous demandez certainement comment une femme telle que Letizia Battaglia a pu devenir photo-reporter en ayant comme thème de prédilection un sujet aussi dangereux et masculin que la mafia italienne. Eh bien, en fait, après un passage à vide qui l'avait amenée à effectuer un séjour dans une clinique psychiatrique en Suisse, Letizia s'était décidée à reprendre sa vie en main pour tracer sa propre route. En 1969, de retour dans sa Sicile natale, elle tente sa chance et elle se rend dans les locaux du journal Le Quotidien Laura et demande d'intégrer la rédaction. Nous sommes alors en plein mois d'août. Les journalistes sont en vacances. Le rédacteur en chef a terriblement besoin d'aide. Il réfléchit, au pas longtemps. Il connaît déjà Letizia, mais seulement de réputation. Et pour cause. Elle est connue comme le loup blanc à Palerme. Son histoire avait fait le tour de la ville. Ah oui, c'est une histoire que je ne vous ai pas encore racontée. Un jour, elle avait été surprise dans les bras d'un autre homme, beaucoup plus jeune. Pris d'une rage fulgurante, son mari avait pris un pistolet pour tirer à bout portant sur l'amant de sa femme. Il ne le tue pas, mais il le blesse. Et très vite, l'affaire fait le tour de la ville. C'est sans doute un des événements qui va la conduire à trouver un travail afin de s'émanciper de son mari. Malgré sa réputation dans la ville, Letizia est embauchée comme pigiste par le quotidien Laura pour écrire des articles par-ci par-là. Mais assez rapidement, elle troque son stylo pour un appareil photo. Pour Letizia, la photographie lui laisse plus de liberté dans son rapport avec son sujet. Elle lui permet de transmettre des émotions qu'elle n'arrive pas à retranscrire par l'écriture. Letizia Battaglia devient alors la première femme photographe italienne à travailler pour un quotidien d'actualité. Elle commence par photographier les personnes qu'elle croise dans la rue, les enfants, les femmes. La mafia, elle n'y pense pas une seconde. Mais alors, comment va-t-elle se retrouver à travailler sur un sujet aussi délicat? Comme souvent dans la vie, les choses les plus importantes nous tombent dessus sans les chercher. Si ce vieil adage est souvent employé pour parler d'amour, pour Letizia Battaglia, il s'agit de la mort. 3 jours après avoir commencé son travail au journal, on l'envoie couvrir un meurtre qui s'apparente à un règlement de compte. Pourtant, ce 23 mai 1992, alors qu'elle est incapable d'aller sur les lieux du crime où son ami le juge Falcon a trouvé la mort, Letizia ne peut s'empêcher de repenser à la première fois où elle a dû dégainer son appareil pour photographier un cadavre de la mafia. Oh, elle s'en rappelle comme si c'était hier. Le corps était là, couché sous un olivier depuis quelques jours. L'odeur, c'est toujours la première chose dont on vous parle quand il est question d'un cadavre. Cette odeur-là, Letizia n'est pas prête de l'oublier. Une odeur putride qui se mêlait à la douce effluve des olives arrivées à maturation. Letizia se souvient de cette photo. Une photo en noir et blanc, comme toujours. Un corps allongé sans vie sur le dos, le visage tourné vers le ciel. Le cadavre a été dépossédé de ses chaussures. Sa veste est ouverte et son pantalon légèrement retroussé sur ses mollets. Dans le coin de la photo, un policier se tient droit comme un piquet. Il la regarde dans les yeux, ou plutôt dans son objectif. Oui, Laetitia se souvient de chaque détail de cette photo. La première d'une très longue série qui durera 19 ans au journal Laura. Le juge Falcone, Laetitia l'a déjà photographié. Elle se souvient d'une photo prise de lui aux funérailles d'un général, lui aussi tué par la mafia. C'était en 1982. 10 ans plus tard, il lui est inimaginable de déclencher son appareil pour photographier à nouveau son ami, mort cette fois-ci. Pourtant habitué par les cadavres, rien que d'imaginer les images figées du corps de Falcone et de son visage inanimé lui donne des haut-le-cœur. Laetitia revoit en boucle dans sa tête les images télévisées de la scène du crime du juge. L'immense cratère laissé par la déflagration, les voitures retournées sur des monticules de terre et de gravats. La vie est injuste, et elle le sait. Assassiner Falcone, c'est tuer un homme si intègre et si juste, un homme aimé de toutes et tous, un modèle qui force le respect et l'admiration. Laetitia a envie de hurler. Ce héros des temps modernes, grand et élégant, la moustache bien dense, Laetitia l'avait rencontré il y a quelques années. D'abord via son travail de photographe, bien sûr, puis par ses activités au conseil municipal de Palerme, lorsqu'elle avait décidé de s'engager en politique pour lutter contre la mafia et la corruption. Une phase de sa vie qu'elle regarde aujourd'hui d'un œil critique. Elle qui voulait tant faire bouger les lignes pour enrayer toute forme de violence. Elle s'était sentie terriblement inutile et impuissante. Le pire, c'est qu'elle est maintenant députée au Parlement sicilien et que ce sentiment d'inutilité est encore plus vif. À vrai dire, plus elle y pense, moins elle est à l'aise avec son travail qui l'éloigne de la réalité du terrain, alors que c'est exactement pour ça qu'elle s'était lancée en politique. Mais au moins son engagement lui avait permis de se rapprocher du juge Falcone et rien que pour ça, elle ne regrettait rien. On dit toujours qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles parce que on est forcément déçu. Pour Laetitia, c'était tout l'inverse. Dès qu'elle l'avait rencontré, elle l'avait pris pour exemple de détermination. Prêt à tout pour la justice sociale, même si elle était plus âgée que lui, elle le prenait pour modèle. Oh bien sûr, ça faisait déjà des années que Laetitia contribuait à sa manière à la lutte anti-mafia grâce à ses photos qui, petit à petit, constituaient un dossier à charge contre Cosa Nostra. Mais lorsqu'elle avait des doutes ou une petite baisse d'activité, Laetitia repensait au juge Falcone. S'il pouvait sacrifier sa vie pour lutter contre la mafia, elle pouvait bien continuer son travail de photojournaliste. Lui ne se plaignait pas. Il ne semblait jamais avoir de doute. Pourtant, le juge Falcone avait assurément le travail le plus dangereux d'Italie. Être en bisbille avec les petits capots de la mafia, c'était déjà une chose. Mais alors, être identifié comme l'ennemi numéro un de la mafia, c'en est une autre. Le juge travaillait sans relâche au démantèlement de l'organisation criminelle. Laetitia se rappelle qu'il disait toujours « Suivez l'argent, vous trouverez la mafia ». Et effectivement, le juge Giovanni Falcone avait bien fini par les trouver.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, direction la Sicile. Je vous raconte l'heure H de l'assassinat par la mafia du plus célèbre juge d'Italie, le juge Giovanni Falcone. Cette histoire, je vous la raconte grâce à Laetitia Battaglia, une photojournaliste qui a documenté les crimes de Cosa Nostra. L'histoire de l'assassinat du juge Falcone, c'est aussi l'histoire d'un changement de paradigme en Italie. C'est l'histoire du début de la fin d'une des plus grandes organisations criminelles du XXe siècle. Cette date du 23 mai 1992, Laetitia Battaglia s'en souviendra longtemps. La langueur des beaux jours, la visite hebdomadaire à sa mère malade et, bien sûr, la mort de son ami, le juge antimafia Giovanni Falcone. tué dans un attentat à la bombe à 17h58 sur la route de l'aéroport de Palerme au centre-ville. Comment avait-on pu en arriver là? Comment l'Italie avait pu laisser la mafia tuer le symbole de la lutte contre la corruption et la violence? La faille dans la protection du juge Falcone était évidente. Tout comme elle était persuadée que l'assassinat du juge Falcone confirmait que la mafia avait passé un nouveau cap dans l'utilisation de la violence. Il ne s'agit plus seulement de règlement de compte ou d'intimidation, mais d'une nouvelle ligne de conduite. Éliminer toutes les personnes qui représentent une menace à son organisation. C'est bien simple. Toute personne considérée comme nuisible doit être réduite au silence. Qu'elle soit une personne lambda ou l'une des personnalités les plus importantes d'Italie d'ailleurs. La mafia ne fait pas de différence. Falcone n'est d'ailleurs pas le premier magistrat à en subir les conséquences. Alors qu'elle travaillait à Laura, Letizia se souvient du jour où un juge venait d'être attaqué tout près des locaux du journal. Elle s'était empressée de venir sur les lieux du crime, courant à toute vitesse avec ses appareils photos qui se balançaient autour de son cou. Seulement, cette fois, le juge avait survécu. Le juge Falcone n'a pas connu le même destin. La mafia ne s'était pas loupée. Il faut dire qu'aux yeux de la mafia, le juge Falcone n'est pas n'importe quel nuisible. En tant que symbole de la lutte anti-mafia, il est la personne à éliminer, l'homme à abattre. Mais qui, dans les rangs de cette organisation, aurait osé passer à l'action? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Mais d'abord, il est important de comprendre pourquoi et comment le juge Falcone est devenu l'ennemi numéro un de Cosa Nostra. Et pour cela, il faut revenir à un événement clé. En février 1986, le plus grand procès contre la mafia débute à Palerme. On l'appelle d'ailleurs le Maxi Procès ou Maxi Processo en italien. Et pour cause, près de 475 mafiosi sont entendus et tentent de plaider leur cause. La star du jour, Tommaso Buscetta, connu sous le nom de « Boss of Two Worlds », le chef des deux mondes. La justice le considère comme un indique, une source, un informateur. La mafia ne le considère plus. Il n'est rien qu'un traître qui a brisé l'omerta. Et pour la mafia, le pire, c'est la trahison. Pour intégrer la mafia, un pacte de sang est pratiqué pendant le rituel d'initiation. Et la mafia ne trahit pas sa famille, encore moins pour la dénoncer à la justice. Mais pas de chance pour eux. Buscetta décide de tout raconter au juge Falcone en échange d'une protection. Grâce à son témoignage et à ses preuves, la défense de la mafia est réduite à néant. Depuis 2 ans, Falcone travaille Buscetta au corps pour recueillir ses confidences précieuses et cruciales. Grâce à lui, le magistrat et ses collègues du pôle antimafia de Palerme se font les instigateurs du maxi-procès contre Cosa Nostra. Ce procès avait duré plus d'un an dans un bunker spécialement construit pour l'occasion. La salle d'audience était logée dans ce vaste bâtiment en béton armé, capable de résister à des attaques aériennes extérieures, c'est dire le niveau de sécurité qu'implique un procès de cette envergure. Le traditionnel box des accusés était remplacé par des cages grillagées derrière lesquelles se tenaient les mafiosi appelés à comparaître. Letizia se souvient bien des images du procès. Ces images, elle les avait découvertes dans les médias, comme tout le monde. Elle avait formellement refusé d'assister au procès. Elle ne voulait plus, ou plutôt, elle ne pouvait plus faire face à l'horreur. Leur donner de l'attention et les regarder, même à travers l'objectif de son appareil photo, était au-dessus de ses forces. Parmi les accusés, il y a un prévenu qu'elle connaît bien. C'est l'ancien chef d'un clan de la mafia devenu tristement célèbre. Le clan des Corleone. Après des années de cavale, il avait été arrêté et c'est à cette occasion que Letizia l'avait pris en photo. Sur ce cliché, l'ancien boss du clan des Corleone la regarde droit dans l'objectif. Ses yeux sont dissimulés derrière une grosse monture de lunettes au vert teinté. Il lève la main, il a la bouche entrouverte. On dirait qu'il s'apprête à parler à Laetitia. Elle ne se souvient plus de ce qu'il lui avait dit, mais elle savait très bien ce qu'il pensait. Être photographié et avoir son visage dans tous les journaux, c'est déjà une chose. Une chose très désagréable, qu'il avait réussi à esquiver depuis des années, certes. Mais il y a pire dans cette Italie machiste. Être photographié par une femme. Et même si Laetitia est forte, et qu'elle renvoie une certaine confiance en elle et une certaine assurance, elle se rappelle avoir été terrorisée par cet homme. Si bien que ses mains tremblaient comme des feuilles et que la plupart de ses clichés étaient complètement flous. C'était plus de 10 ans avant le maxi-procès, mais elle se rappelle encore du terrible sentiment d'effroi et de peur que lui avait procuré l'ancien chef du clan Corleone. Cette fois, elle ne voulait pas s'infliger ça. Mais vous connaissez le dicton. Chasser le naturel, il revient au galop. Alors elle suivait avec attention les comptes rendus et les reportages sur le procès de ses confrères et consœurs journalistes. Elle se souvient parfaitement du verdict, 1 an après le début du procès. Avant de révéler leur sort, le président du jury doit nommer les accusés. Mais ici, ils étaient si nombreux qu'il avait dû faire ça en avance rapide. À la fin de sa longue énumération, le juge les avait reconnus coupables de meurtre, trafic de drogue et extorsion. En tout, tenez-vous bien, 360 condamnations et plus de 2500 années de peine de prison, sans compter les peines à perpétuité. Laetitia se souvient très bien des réactions de surprise de tous ces hommes qui lui semblaient alors si petits derrière les barreaux. Enfin, justice avait été faite. Peut-être la mafia était-elle enfin à genoux. Malheureusement, la mort du juge Falcone offrait une réponse on ne peut plus claire à cette hypothèse. La mafia est toujours vivante et elle rend coup sur coup. Falcone avait réussi à faire parler l'un des leurs. Alors, Falcone devait mourir. Des ennemis, le juge Falcone en avait, oui, c'est certain. Mais s'il les avait tous mis derrière les barreaux, qui pouvait bien avoir commandité et planifié son assassinat? Seulement, sont-ils réellement tous emprisonnés? Non. Un personnage clé de la mafia parvient à se glisser entre les mailles du filet. C'est le grand absent du maxi-procès de Palerme. Salvatore Rina, le nouveau boss à la tête du clan des Corleone, court toujours et... il ne fait presque aucun doute qu'il est derrière l'assassinat du juge Falcone.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'onde de choc qui a secoué l'Italie après la mort du juge antimafia Giovanni Falcone à Palerme, en Sicile. À travers les yeux de Laetitia Battaglia, la plus grande photoreporter italienne qui a passé sa vie à photographier les crimes de Cosa Nostra, je vous raconte l'histoire d'une Sicile qui vit au rythme des attentats, une Sicile usée par la violence, la corruption et les meurtres. Une Sicile bientôt bouleversée et révoltée par la mort des hommes d'État qui combattent la mafia. Les jours et les mois après le meurtre du juge Falcone se suivent et, malheureusement, se ressemblent. Malgré les 360 condamnations des membres de Cosa Nostra lors du maxi-procès de la mafia à Palerme, l'organisation criminelle continue de faire sa loi. Pire encore, la mort du juge Falcone semble lui avoir donné un second souffle. La mafia s'apprête à nouveau à commettre l'irréparable. On comprend mieux le surnom qui lui est donné. La pieuvre, la pieuvre. Évidemment la pieuvre, pour rappeler son réseau tentaculaire qu'elle développe en Italie, mais aussi partout en Europe et aux États-Unis. Mais également la pieuvre pour ses capacités régénératrices. Si on coupe une tentacule, elle est capable d'en recréer une nouvelle. Il en va de même pour la mafia Cosa Nostra. Ce n'est pas parce qu'on la prive d'une partie de son réseau que l'organisation arrête de fonctionner. Le maxi-procès et plus généralement, la multiplication des arrestations et la répression des années 90 a bien sûr affaibli l'organisation. Mais ces têtes pensantes sont toujours en activité. C'est le cas de Salvatore Rina, dit Toto Rina, le nouveau chef sanguinaire du clan des Corleone qui règne alors sur la Cosa Nostra. Lors du maxi-procès, il était déjà en cavale, mais ça ne l'a pas empêché d'écoper d'une peine de prison à perpétuité. Toujours est-il qu'il faut le capturer, et vite. S'il a été capable de s'en prendre au symbole de la lutte anti-mafia, qui sait quelle est la prochaine étape de son plan ? Il faut dire que ses prédécesseurs étaient plus discrets, moins ostentatoires, disons. Qui sera le prochain à subir la stratégie de la violence de Totorina ? Dans ces temps troublés, comme tous les Siciliens et Siciliennes, Letizia Battaglia a peur. Même si son travail de photojournaliste l'a toujours exposée à de nombreux risques vis-à-vis de la mafia, on ne s'habitue jamais à la peur. On vit avec, c'est tout. Elle se souvient très bien la première fois qu'elle s'était sentie réellement en danger. C'était lorsqu'elle allait photographier les cortèges funéraires de la mafia. Pendant ces cérémonies, si un membre de l'organisation est assassiné, toute sa famille et ses proches y assistent. De quoi fournir des preuves des liens qui les unissent. Et des funérailles dans cette Sicile violente et meurtrière, il y en a presque tous les jours. Malgré les risques, Letizia est comme prise d'une mission. Elle doit documenter ce qu'il se passe au quotidien sur son île. Tapie dans un coin, elle prépare son appareil photo. Elle choisit le cadre dans sa tête. Elle fait discrètement le point pour que le focus soit net. Et lorsque le cortège apparaît, elle tousse pour masquer le clic de son appareil. En fait, quand elle y repense, Letizia se dit que ce sont dans ces moments-là que la mafia l'identifie. Depuis, comme le juge Falcone, Letizia s'est toujours dit qu'elle aussi, elle allait mourir assassinée. Elle reçoit d'ailleurs régulièrement des coups de fil ou des lettres anonymes qui la menacent de mort. Mais en ce jour de juin 1992, Letizia doit faire honneur à son amie, d'autant plus le jour de ses funérailles. Une foule immense de plus de 10 000 personnes s'est amassée devant la cathédrale de Palerme. Tous sont venus rendre un dernier hommage au juge devenu héros national par son statut de martyr. Les obsèques se transforment d'ailleurs en réquisitoires contre la mafia que la foule qualifie de bouffon. Mais lorsque le cercueil ressort de l'église, la foule ne hurle plus, elle applaudit. Le soir même, une veillée silencieuse à la bougie illumine les rues de la ville. En tête de cortège, on aperçoit une autre figure bien connue de la lutte anti-mafia, le juge Paolo Borsellino. Maintenant que son collègue et ami d'enfance Giovanni Falcone est décédé, c'est à lui de prendre la relève. Et il sait que c'est pas sans risque. J'imagine que vous me voyez venir. Seulement 2 mois après la mort de Falcone, la mafia frappe à nouveau un grand coup. Le juge Borsellino est tué dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attaque fait 4 morts. Il y a comme un air de déjà-vu. Comme pour l'assassinat du juge Falcone, Letizia apprend la nouvelle alors qu'elle est chez sa mère le week-end. Et comme la dernière fois, elle appelle immédiatement un taxi. Mais cette fois, elle se rend sur les lieux du crime. Ce qu'elle voit est au-delà de ce qu'elle imaginait. Des morceaux de corps, voilà ce qu'elle trouve. Tout ce qu'il reste de Paolo Borsellino, c'est son estomac. Elle range aussitôt son Pentax Camille, parce que finalement, les photos les plus douloureuses sont celles qu'elle n'a pas prises. À l'annonce de la mort du juge Borsellino, l'onde de choc est immense. Le jour de ses funérailles, le peuple descend dans la rue. Il veut lui rendre hommage, mais la police a pour ordre de ne pas laisser la foule entrer dans l'église. Cette fois, c'en est trop. Le règne de la terreur a assez duré. Les Siciliennes et les Siciliens veulent en finir pour de bon avec Cosa Nostra. Ils accusent le gouvernement de jouer son jeu en laissant ses meurtres se dérouler depuis des décennies, voire des siècles. La foule scande « Assassinato, assassin, puis sortez la mafia de l'église !» Les funérailles tournent au règlement de compte. Le président de la République italienne est encerclé par la foule. La police est complètement impuissante. Letizia est au premier rang de ce triste spectacle. Jamais elle ne pourra oublier le dédain et le mépris d'un président qui ignore la douleur de son peuple. Et pour que la vérité soit rétablie, il faut commencer par le commencement. Retrouver l'homme derrière les meurtres des juges Falcone et Borsellino et lui faire payer ses crimes. Cet homme qui a planifié la mort des deux juges, cet homme qui a mis à sang la Sicile, c'est Toto Riina, le boss de la famille Corleone, toujours en cavale. Après 23 ans de recherche, 23 ans après avoir joué au chat et à la souris, la police italienne parvient à le capturer. Alors, imaginez un peu lorsque l'Italie tout entière découvre que Toto Riina, l'homme le plus recherché du pays, vivait tranquillement, en plein cœur de Palerme, dans une villa confortable, avec sa femme et ses enfants. Letizia n'en revient pas. 23 ans de cavale, alors qu'il était juste sous le nez de la police. L'exaspération générale redouble lors de son procès. Lorsqu'on lui demande s'il a déjà entendu parler de Cosa Nostra, il répond qu'il n'a jamais eu affaire à un membre de Cosa Nostra. Et quand le juge lui rappelle la question, il répond hypocritement qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il est copain d'une peine de prison à perpétuité. Avec le boss de la famille Corleone derrière les barreaux, on pourrait croire que la mafia sicilienne est de l'histoire ancienne. Ce serait sans compter sur la hiérarchie de Cosa Nostra. Comme des poupées russes où chaque matrioshka en cache une autre jusqu'à l'ultime figurine. Mettre la main sur le chef d'un clan est juste une étape avant d'atteindre le boss du boss, ou plutôt le capo di tutti capi, comme on dit en italien. Le chef de tous les chefs, c'est Bernardo Provenzano. Lui aussi est né à Corleone en Sicile. Il gravit petit à petit les échelons de Cosa Nostra avant d'en être nommé chef suprême. Ça fait 42 ans qu'il se cache sans que personne ne parvienne à le trouver. Et pour cause. Le boss des boss prend ses précautions. Il n'utilise pas de téléphone portable, par exemple. Il communique avec ses hommes grâce à un système ancestral. Des petits bouts de papier qui circulent de main en main, appelés pinzini. Mais malgré sa prudence et sa discrétion, là encore, on ne peut pas fuir toute sa vie. Après une opération de filature digne des plus grands films hollywoodiens, Bernardo Provenzano est arrêté par la police sicilienne. Le chef ultime était caché dans une ferme sans eau ni électricité à seulement quelques kilomètres de Corleone. Quand il est arrêté, le chef suprême a 72 ans. Letizia revoit alors dans sa tête les images d'un vieil homme frêle. C'est un vieux monsieur qui pourrait attirer la pitié s'il n'avait pas ce sourire dérangeant, un sourire qu'elle connaît bien, un sourire qu'elle prête aux gens qui ne se rendront jamais. Bien loin des clichés du mafieux qui vit dans le luxe, Provenzano vit dans un dénuement assez surprenant. En fait, la plupart des hommes les plus importants de la mafia passent leur vie en cavale ou en prison. Ils ne profitent même pas de l'argent sale qu'ils extorquent. Mais Letizia en est sûre. Ce qui compte pour ces gens-là, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Toujours est-il que l'arrestation de Provenzano marque la fin du règne du clan des Corleone sur Cosa Nostra. Mais si la mafia sicilienne a perdu de sa force de frappe et de son influence, elle n'en reste pas moins présente sur l'île comme en Italie. Aujourd'hui, Cosa Nostra n'est plus la plus importante organisation criminelle d'Italie. On parle plutôt de la 'Ndrangheta, une mafia originaire de la région de Calabre. Quant à Letizia Battaglia, elle décède en avril 2022, après plus de 30 années à documenter les années sanglantes d'une Sicile gangrénée par la violence de la mafia. Ces 600 000 clichés constituent un témoignage unique et précieux de l'histoire de la Sicile. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.